I'm turning today to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 10 and verse 7.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 7. Regardez-vous aux apparences. Si quelqu'un est persuadé en lui-même qu'il appartient à Christ, qu'il se dise aussi en lui-même que comme il appartient à Christ, nous lui appartenons aussi. Et notre sujet ce matin, c'est défendre l'Église. Les versets qui sont là devant nous sont très difficiles et semblent très obscurs par moments. Beaucoup pensent que c'est là le passage le plus difficile à comprendre dans cette épître aux Corinthiens. Mais ce n'est pas difficile du tout. Mais c'est notre traduction qui rend ce passage un peu difficile. C'est une traduction neutre qui a pris des décisions d'interpréter certains passages. Et c'est typique de l'apôtre Paul, c'est plein d'illustrations et c'est très clair. Mais ceci semble plus complexe que ça n'est réellement. Mais c'est un passage essentiel sur ce sujet, la défense de l'Église véritable de Christ. Et c'est là ce qui suit la justification de Paul de son appel en tant qu'apôtre et sa souffrance au chapitre 11, etc. Nous en arriverons là, mais nous considérons ce passage dans notre étude, dans cette série, dans 2 Corinthiens, au verset 7. Regardez-vous aux apparences. Comme vous le savez, le problème c'est que les Corinthiens ont laissé entrer des faux enseignants qui sont venus de Judée, probablement de Jérusalem, et ils disaient qu'ils connaissaient les vrais apôtres, certains peut-être, comme il est écrit ici où c'est implicite, certains disaient qu'ils ont connu Christ, qu'ils ont entendu Christ lui-même, et ils disaient qu'ils étaient de vrais enseignants, mais ils étaient des judaïsants, des faux enseignants, ils étaient juifs, et ils pensaient que leur mission dans leur vie, en tant que secte juive, c'était d'aller d'église en église, dans les églises qui ont été fondées par l'apôtre Paul, par les apôtres, par Paul en particulier, et ceux qui l'accompagnaient, et de ramener ces églises dans la bergerie juive. Et ces judaïsants entraient et disaient « Oui, nous croyons en Christ et nous sommes chrétiens, mais il n'est pas suffisant. » Le salut que l'apôtre Paul prêche de se confier en Christ, en son sang versé à la croix du calvaire, sa mort expiatoire pour les pécheurs et la puissance de conversion de Dieu, ceci n'est pas suffisant. Vous devez revenir aux cérémonies juives. Les non-juifs n'ont jamais été juifs. Mais ils leur disent « Entrez dans le judaïsme et soyez prosélytes, soyez circoncis et faites toutes ces cérémonies de la loi juive. Vous devez faire ceci pour être sauvés. » Et c'était là le faux enseignement qui est entré. Et les Corinthiens ont laissé ces choses entrer facilement. Ils ont accepté ces enseignants et ils menaçaient de prendre le relais. Ils étaient des gens qui étaient plutôt rusés, ils voulaient leur argent. Ils étaient des bons orateurs qui racontaient des histoires, des fables et qui avaient des personnalités qui étaient plutôt fortes. Ils supprimaient la foi, la rendaient plutôt simple, facile. Vous n'avez pas besoin d'aller beaucoup à l'église, vous n'avez pas besoin d'aller à la réunion de prière et toutes sortes de choses. Ils ont rendu ces choses faciles, vous pouvez continuer à aller à vos idoles, vous pouvez garder votre travail, même si ceci implique d'adorer des idoles. Ainsi, ils avaient une version du christianisme qui était diluée et qui n'était pas du tout le christianisme. Et les Corinthiens ont été emportés par ces choses. L'église à Corinthe était une bonne église fondée par l'apôtre Paul. Il y avait beaucoup de vrais croyants, mais il semble que les gens plus anciens se sont relâchés. Ils ont accepté ces gens. Au verset 7, l'apôtre Paul dit « Regardez-vous aux apparences. Est-ce que vous êtes si superficiel que vous laissez ces enseignants entrer ?» Et vous n'avez pas posé de questions. Quand ils ont dit « Nous venons de Judée », vous avez dit « Oh, c'est merveilleux !» Ils disent « Nous sommes chrétiens », vous dites « Oh, c'est merveilleux !» Vous acceptez leurs paroles, tout ce qu'ils disent. Quand ils utilisent des termes chrétiens, d'être sauvés, d'être convertis, etc., vous dites « Oh, ceci est merveilleux !» Mais vous ne posez pas de questions profondes, pas du tout. Et c'était là le problème. Ils n'ont pas posé de questions. Oh, comment est-ce que vous avez rencontré Christ? Parlez-nous de votre témoignage. Est-ce que vous avez eu cette conviction de péché? Est-ce que vous avez réalisé votre besoin du pardon de Dieu? Est-ce que vous vous êtes confié uniquement dans la mort expiatoire de Christ à la croix du calvaire comme étant le seul moyen pour être pardonné? Je n'amène rien dans mes mains, mais je viens simplement à ta croix et je m'accroche à ta croix. Ils n'ont posé aucune de ces questions. Ils ont simplement accepté ces gens. Et en tant que jeune, je me rappelle de ceci. Quand j'étais jeune converti, j'étais dans une église et l'église était dans l'Union Baptiste. L'Union Baptiste a erré grandement en ce qui concerne la vérité il y a bien des années et uniquement une minorité d'églises, une petite minorité d'églises croit réellement dans la Bible et dans la croix du calvaire et dans la foi. Mais cette église dans laquelle j'étais croyait dans la Bible. Mais je me rappelle que le comptable de l'église a dit « Oh, c'est l'assemblée de l'Union Baptiste et nous envoyons des délégués, nous aimons notre dénomination bien-aimée. » Mais leur dénomination bien-aimée était dans la confusion théologique et ces gens qui menaient cette dénomination ne croyaient plus dans le salut par la foi, dans la croix de Christ. Et cependant, ils parlaient encore de notre dénomination bien-aimée et pourtant, elle avait erré et ils auraient dû défendre la foi. Mais les gens n'avaient pas ce discernement. Je me rappelle d'une dame qui a dit à certains de nos jeunes, il y avait un invité qui est venu pour parler aux jeunes et il ne croyait pas dans la Bible. Il errait réellement. Mais cette dame nous a dit, « Oh, mais ceci n'est pas possible. Il a été enseigné dans un institut biblique de l'Union Baptiste. » Et pourtant, il était complètement hérétique. Et vous pouvez voir, dans cette église de Corinthe, que l'histoire se répète. Et ainsi, les églises baptistes sont complètement libérales à présent. De même, pour les Corinthiens, regardez-vous aux apparences, vous ne posez pas de questions profondes et vous n'avez pas réellement considéré leur doctrine, leur croyance, vous n'avez pas écouté leur témoignage, parce que sinon vous auriez su que ces gens renient Christ et sa mort expiatoire, qu'il était le Fils de Dieu infaillible, qui est venu de la gloire céleste pour mourir pour les pécheurs, et que, en se confiant en lui seul, ceci peut nous sauver. Et quand j'étais jeune, dans le service militaire, j'étais dans une église et j'entendais des prédicateurs libéraux. Ils utilisaient le bon vocabulaire, ils parlaient de conversion, et ils utilisaient toutes sortes de termes évangéliques, mais pour eux, ceci n'avait pas la même définition. Je me souviens d'un prédicateur, d'un bon prédicateur, qui m'a dit un jour, vous pouvez toujours détecter quelqu'un qui est libéral, c'est quelqu'un qui doute de la foi, et vous pouvez voir ce qu'il omet. Ce n'est pas réellement le vocabulaire qu'il utilise, mais c'est ce qu'il omet qui est important. C'est ce qu'il ne dit pas, et ceci est vrai. Au verset 7, si quelqu'un est persuadé en lui-même qu'il appartient à Christ, probablement il a à l'esprit ici les faux enseignants. Oh, ce n'est pas suffisant de dire que je suis chrétien parce que je pense que je suis chrétien. Mais quelle est la preuve? Est-ce que vous avez une vie nouvelle? Est-ce que le péché qui était votre ami auparavant est devenu votre ennemi? Est-ce que vous combattez dans ce combat pour la sainteté? Est-ce que vous obéissez au Seigneur? Est-ce que vous lisez la parole? Est-ce que vous priez le Seigneur? Vous dépendez de lui? Est-ce qu'il y a ces signes de la conversion qui sont réellement là en vous? C'est là ce que l'apôtre Paul veut dire ici au verset 7 et au verset 8. « Et quand même je me glorifierai encore davantage de la puissance que le Seigneur nous a donnée. » L'apôtre Paul était un apôtre. Il a été appelé par le Seigneur ressuscité. Qui étaient les apôtres? Ils étaient une catégorie de personnes, de messagers, envoyés par Dieu au début de l'Église primitive. Ils étaient les disciples qui, à l'exception de Judas, sont devenus apôtres, plus un qui a été appelé par les apôtres. Et Paul, après cela, ils étaient inspirés par Dieu. Il n'y a eu qu'une seule génération d'apôtres. Et comme je l'ai mentionné la semaine passée, vous pouviez savoir qui ils étaient parce qu'ils faisaient des miracles, des signes. Ils étaient attestés et authentifiés par Dieu. Mais quelle était leur tâche? Pourquoi on avait besoin d'apôtres? Parce que la révélation était donnée, le Nouveau Testament a été donné par les apôtres, parfois par les apôtres qui étaient des hommes inspirés. Ainsi, ils devaient être authentifiés par Dieu avec des signes, des miracles et des choses merveilleuses. où ils étaient ceux qui authentifiaient les Écritures qui ont été données par des prophètes du Nouveau Testament. Tout a été authentifié par les apôtres. C'était là leur tâche de confirmer les livres du Nouveau Testament dans la Bible, la révélation de Dieu, et de donner un exemple également. Ce que les apôtres ont été appelés par Dieu à faire, c'est ce que l'Église devrait toujours faire durant toutes les générations. Et nous devons les imiter dans leur style de vie et dans la manière de diriger l'Église et ce qu'ils ont mis en place. Et ils ont également rendu témoignage du Seigneur ressuscité. Ils ont tous vu le Seigneur ressuscité et ils sont morts pour lui également comme martyrs. C'étaient là les apôtres, les premiers dirigeants de l'Église, et ils ne pouvaient pas être remplacés. Ils étaient particuliers, uniques. Et l'apôtre Paul, ici, au verset 8, dit « Et quand même, je me glorifierai. » Ce n'est pas dans un mauvais sens si je me glorifierai ou si je parle plus concernant mon ministère d'apôtre. Je n'aime pas faire ceci. Je n'aime pas parler de moi-même. Ainsi, je n'en parle pas beaucoup, mais à présent je dois en parler parce que certains remettent ces choses en question, ces faux enseignants. Mais ils n'aiment pas parler de ces choses, de se mettre en avant. Parce que peut-être que certains auraient pensé qu'il veut montrer son autorité, mais il veut les aider dans leur foi. Versets 8 et 9. Afin qu'on ne croie pas que je veuille vous intimider par mes lettres, ainsi il implore. Et les faux enseignants le critiquaient. Verset 10. Car ses lettres, dit-on, sont sévères et fortes, mais quand il est présent, sa personne est faible et sa parole méprisable. C'était là leur critique. Ce n'était pas juste. L'apôtre Paul n'était pas une personne impressionnante et corpulente, bien sûr. Et il ne parlait pas avec la façon de parler grecque, avec une capacité oratoire extraordinaire. Mais au verset 11, que celui qui parle ainsi considère que tel que nous sommes en parole dans nos lettres, étant absent, tels aussi nous sommes en œuvre, étant présent. Et nous devrons demander à l'Église de discipliner ces gens et de renvoyer les faux enseignants. Au verset 12, il y a un sarcasme. Et nous ne nous y attendons pas réellement, mais c'est plutôt subtil, car nous n'osons pas nous égaler. Nous ne pouvons pas être comme eux ou nous comparer à quelques-uns qui se recommandent eux-mêmes. C'est complexe en grec, mais en se mesurant eux-mêmes par eux-mêmes et en se comparant eux-mêmes avec eux-mêmes, ils se montrent sans intelligence. Ils disent « Nous sommes grands, nous savons ce que nous disons, nous sommes de bons orateurs, nous savons mieux que tout le monde. » C'est comme les gens de nos jours qui écoutent des prédications à la télévision avec toutes sortes de gens qui parlent de leurs dons et qui parlent d'eux-mêmes et qui se vantent. Et ils ont tous leur publicité et ils se comportent comme des gens sur scène qui sont applaudis. Quand vous voyez ceci, vous savez que ceci n'est pas juste. Peu importe ce qu'ils disent, ceci n'est pas sincère. Ce sont des faux enseignants. C'est là ce à quoi l'apôtre Paul se réfère, et ceci se passe également de nos jours. Car nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant eux-mêmes par eux-mêmes. Ils se comparent l'un à l'autre, ils se recommandent l'un l'autre, et ils mettent le jugement humain au-dessus de toute chose divine. « Oh, c'est quelqu'un qui parle bien, qui chante bien, qui compose bien. » C'est là ce que l'on entend dans le mouvement moderne d'adoration et charismatique. L'apôtre Paul dit que ces gens sont de la chair, mondains, comme les faux enseignants à Corinthe, des gens qui aiment être applaudis et qui se mettent en avant et qui se vantent. Se mesurant eux-mêmes par eux-mêmes et en se comparant eux-mêmes avec eux-mêmes, ils se montrent sans intelligence. Ils sont très insensés. Ils sont sans intelligence. Ceci devrait être beaucoup plus fort. Ils montrent qu'ils sont de faux enseignants. C'est là le sens de ce passage. Au verset 13, « Mais pour nous, nous ne nous glorifierons point outre mesure. » Et je dois expliquer ce verset, qui est une illustration très simple, mais qui semble plus complexe. Et je vais vous dire pourquoi ceci semble plus complexe. nos traducteurs, et beaucoup de traductions modernes également, ne veulent pas interpréter ce passage. Ce sont de bonnes personnes, de bons traducteurs, mais il y avait une dispute à ce moment-là par rapport à la signification de ce verset. Ainsi, ils l'ont traduit de manière la plus neutre possible. Et ceci, pour nous, rend les choses difficiles à comprendre. Mais pour nous, nous ne nous glorifierons point outre mesure. Qu'est-ce que cela signifie? Certaines personnes ont toujours dit que ceci signifie que nous ne voulons pas nous glorifier de choses qui sont en dehors de notre territoire. Comme les Israélites à l'époque où les tribus avaient leur territoire. C'est là la région pour la tribu un tel et c'est là la région pour l'autre tribu. C'est comme si l'apôtre Paul utilisait cette illustration. Nous ne faisons pas des choses qui sont en dehors de notre territoire qui nous a été donné. Mais d'autres voient ce passage différemment et je pense qu'ils ont raison. C'est là l'interprétation la plus traditionnelle. Ils disent que c'est là une illustration qui parle des jeux à Corinthe qui étaient bien connus à l'époque et plus connus que les Jeux olympiques à l'époque. Et dans ces jeux, ceux qui couraient, couraient dans leur ligne un couloir sur la piste et c'est là que ces couloirs étaient mis en place comme aux Jeux olympiques en Grèce. Ainsi, l'apôtre Paul dit « Le chrétien court dans sa ligne, dans son couloir, et il y reste. » Notre traducteur ont fait attention d'être neutre parce qu'ils étaient dans ce débat. Est-ce que c'est un territoire ou est-ce que c'est un couloir? Mais pour nous, nous ne nous glorifierons point dans des choses qui sont en dehors de notre couloir. Dieu nous a donné un appel et nous courons dans cette course selon les règles. Nous ne nous glorifierons point dans des choses en dehors de notre couloir, mais dans le couloir du partage que Dieu nous a assigné pour parvenir jusqu'à vous, ce qui signifie cela, notre appel, pour moi et ceux qui prêchent avec moi, c'est d'aller à l'ouest et de prêcher l'évangile là où l'évangile n'a pas encore été prêché. Notre appel, c'était la mission vers les non-juifs, c'était là le couloir, la ligne dans laquelle nous courons. Chaque chrétien doit courir dans le couloir, dans cette ligne que le Seigneur lui a donnée et préparée et assignée. Et notre couloir vous a même atteint, vous, à ce moment de la mission. Corinthe était l'endroit le plus à l'ouest qui a été atteint par l'évangile, par l'apôtre Paul. C'était là notre couloir, dans notre course, et nous y restons. Ces judaïsants ne sont pas appelés de Dieu, ils ne sont même pas sauvés, ils interfèrent, ils ne connaissent pas la vérité et ils n'ont pas été appelés à venir parmi vous, ils prêchent un autre évangile, vous ne devriez pas les recevoir, ils sont dans notre ligne, dans notre couloir. Et c'est là la mission de l'Église juive et non-juive ensemble, l'Église de Christ. Mais ces gens n'ont rien à faire ici, ils sont en dehors de leur ligne. Et si vous comprenez ceci, tout devient plus clair pour vous. Au verset 13, « Mais pour nous, nous ne nous glorifierons point dans des choses qui sont en dehors de notre appel. » Et de nos jours, de même, il y a des églises qui sont fondées. Peut-être, ils disent, nous sommes une église missionnaire, mais ils diluent la foi. Peut-être qu'ils ont un seul culte le dimanche, et ensuite, ils ont quelques petites études bibliques, parfois dans des bars, et dans des pubs, et dans des restaurants. Et ils mangent ensemble et ils veulent toutes les choses modernes, la musique pop et rock, et ils veulent avoir un bon temps ensemble, ils veulent diluer la foi pour que toute chose devienne plus simple et facile. Et pour ramener les jeunes, ils sont en dehors de leur couloir. Ce n'est pas selon la loi de Dieu. Prêcher la parole, l'étude biblique et prier Dieu, dépendre du Seigneur pour qu'il œuvre dans les cœurs. Peut-être que certains sont chrétiens. Mais ils sont dans l'erreur. La tâche du chrétien, c'est d'obéir à Dieu et de faire les choses selon ce que Dieu nous a demandé et de rester dans sa ligne. Si vous comprenez ceci, vous voyez ce que l'apôtre Paul veut dire dans ce passage. Au verset 14, « Car nous ne nous étendons pas trop loin comme si nous n'étions pas parvenus jusqu'à vous. Nous ne sommes pas en dehors de notre couloir, de notre maître, si vous voulez, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. » puisque nous y sommes parvenus avec l'évangile de Christ. Au verset 15, nous ne nous glorifions pas outre mesure, en dehors de notre couloir, de notre mesure, c'est-à-dire dans les travaux des autres. Ce n'est pas d'aller à l'église en disant « Oh, regardez ce que nous avons fait !» Mais le résultat de votre conversion, vous, à votre tour, vous prêchez l'évangile et vous témoignez à d'autres. Mais nous espérons, verset 15, que votre foi étant augmentée, nous nous étendrons beaucoup plus loin dans le partage qui nous est assigné, dans notre couloir. Ainsi, la prière de l'apôtre Paul, c'est que les Corinthiens gagnent d'autres à leur tour, et que l'apôtre Paul, au verset 16, puisse prêcher l'évangile plus loin, dans les pays qui sont au-delà du vôtre, sans nous glorifier de ce qui a déjà été fait dans le partage des autres. Verset 17. Et ceci sera une autre pensée. C'est un verset extraordinaire. Toutefois que celui qui se glorifie, qui désire quelque chose fortement, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. L'apôtre Paul a dit exactement la même chose dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, verset 13. Et ceci vient de Jérémie, chapitre 9, sans aucun doute, et l'adapte à son but. Celui qui se glorifie. Est-ce que vous avez une ambition? Est-ce que vous avez un grand désir? Est-ce que vous êtes enclin à prendre le crédit pour quelque chose? Celui qui se glorifie. Qu'il se glorifie dans le Seigneur. C'est là le christianisme. C'est Dieu et sa gloire. Est-ce que l'Église augmente? Est-ce que l'Église est pleine? Et c'est l'œuvre du Seigneur. Nous l'offensons si nous pensons d'une manière différente. Si quelqu'un est sauvé, qui a fait ceci? Qui prend le crédit pour l'aide qui a été donnée, peut-être pour la prédication ou pour la parole de témoignage? C'est le Seigneur qui le fait. Celui qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Vous voyez à nouveau ces choses à la télévision, ces gens qui se disent chrétiens. Qui reçoit la gloire? Celui qui applaudit? Celui qui parle? Non, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Quand vous et moi nous sommes tentés de prendre le crédit pour nous-mêmes, oh, glorifiez-vous dans le Seigneur. Donnez-lui toute la gloire, toute la louange. Au verset 18, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé par le Seigneur, mais celui que le Seigneur recommande. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même. Et ensuite, et je dois en arriver à la conclusion et me référer au chapitre 11, un dernier point, qui parle de la ruse de Satan et ses intentions, alors qu'il essaye de faire tomber l'Église de Christ. Puissiez-vous supporter un peu mon imprudence, ma folie? Moi aussi, je vous prie, supportez-moi. L'apôtre Paul dit « Je vais devoir parler de mon appel en tant qu'apôtre. » Je vais devoir justifier mon autorité en tant qu'apôtre. Ceci, je n'aurais pas voulu le faire, mais il faut que je le fasse à présent. Au verset 2, car je suis jaloux de vous. En grec, ceci vient de ce terme pour la chaleur. Je suis chaud et mes sentiments pour vous sont pleins d'amour et j'aspire pour vous avec jalousie. Et vous avez été volé comme un mari, comme une femme. Parce que je vous ai unis à un seul époux. Dans les coutumes de l'époque, ce n'est pas le mariage, mais ce sont les fiançailles. Il y avait un culte de fiançailles d'un homme et d'une jeune femme qui allaient se marier plus tard. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a prêché l'évangile, c'est là le culte de fiançailles. Et ils se sont donnés à Christ comme l'épouse dans la culture ancienne promettait qu'elle allait se garder pour l'époux. Vous êtes promis pour le mariage. Et quand est-ce que ceci va se passer? Quand nous allons au ciel, notre conversion, c'est nos fiançailles à Christ et nous lui sommes fidèles. Nous attendons la fin et le ciel, le mariage. Parce que je vous ai uni à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste, mais quelque chose est allé de travers. Quelqu'un est venu pour briser cette relation précieuse, au verset 3. Mais je crains que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. La simplicité qui est en Christ, Ce terme simplicité ici signifie sincérité. Une seule pensée, sincérité. Votre but, votre seul but, c'est d'être marié à Christ un jour, de l'aimer, de le servir, de lui être fidèle, de lui obéir jusqu'à ce jour. Car s'il venait quelqu'un qui vous prêche un autre Jésus au verset 4, un Jésus-Christ qui n'était pas infaillible, un Jésus-Christ qui n'est pas mort à la croix du calvaire pour expier les péchés des pécheurs, un Jésus-Christ qui n'est pas réellement ressuscité des morts, littéralement Dieu tout autant qu'homme. Car s'il venait quelqu'un qui vous prêche un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou un autre esprit que celui que vous avez reçu, l'esprit qui œuvre dans nos cœurs, l'esprit qui œuvre d'une manière silencieuse. Et ces gens disent, oh non, il faut un autre esprit avec plein de bruit, de musique et de choses extraordinaires et des choses spectaculaires. Nous croyons dans un autre esprit, un esprit qui est spectaculaire, qui fait des miracles et des signes. Non, si vous recevez un autre esprit qui n'est pas l'esprit du Nouveau Testament qui œuvre dans les cœurs de manière silencieuse, l'esprit dans votre cœur qui vous amène à la sainteté ou un autre évangile, la justification par la foi seule, c'est là l'évangile, que celui que vous avez embrassé, vous le supporteriez fort bien. C'est le sarcasme de l'apôtre Paul. Et nous dirions aujourd'hui, vous allez l'accepter facilement, c'est là ce que vous avez fait. Vous avez été emporté par ces choses. Si Satan amène quelqu'un parmi vous avec un autre évangile, un autre esprit, un autre Christ, alors vous allez l'accepter facilement. Vous allez accepter cette personne et cet évangile. Comme cette église dans laquelle j'étais quand j'étais jeune, elle était évangélique, mais tout un croyant libéral qui entrait, l'église l'écoutait, comme si c'était quelqu'un qui était aussi fidèle à la parole que leur propre pasteur. Parce qu'il disait, oh, il dit qu'il est chrétien. L'apôtre Paul dit, vous allez l'accepter, parce que vous n'avez pas de discernement. Oh, je ne vous parle pas à vous, chers amis. Nous ne devrions jamais être emportés ainsi. Ce passage, qui semble si difficile, parle du discernement et de défendre l'Église. L'Évangile est si précieux et Christ est si précieux. Chaque chrétien doit être quelqu'un qui défend la foi.